proche de vous. RTL.
Bienvenue Charles Sanna, merci d'être avec nous pour parler des conséquences économiques que vous traitez sur votre site Insolencier et qui est basé sur une lettre que vous envoyez, que je peux résumer, un peu comme des mini-livres PDF qu'on peut, en s'abonnant sur votre site, obtenir. Merci d'être avec nous.
Bonjour tout le monde, merci à vous de m'accueillir.
Alors, Charles Sanna, d'abord, avant de rentrer au cœur du sujet, c'est-à-dire votre vision pour protéger les actifs de chacun par rapport à cette crise qui semble arriver, on peut juste faire peut-être quelques instants sur votre parcours. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un économiste qui s'est construit lui-même loin des théories, puisque vous avez été plusieurs années à la banque PNP comme chargé d'affaires et que, on pourrait dire, cette expérience du terrain, vous avez été plus vers vos passions, c'est-à-dire l'écriture et l'économie. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un self-made man économiste ?
Oh oui, on peut le dire. Moi, si vous voulez, j'ai une approche extrêmement concrète de l'économie, qui est totalement en rupture, si vous voulez, de l'approche classique et théorique que peuvent avoir tous les économistes. Alors, c'est pas du tout une critique bête et méchante à leur égard. On a aujourd'hui tout un corpus économique avec une école économique à Paris et des économistes tout à fait brillants et de renom. Alors, pour les aspects théoriques, pour les grandes études, pour les belles terminologies, pour les belles thèses, bien on a vraiment tout ce qu'il faut et je vous dis, on a parmi les meilleurs économistes au monde. Et puis après, il y a un grand trou dans la déclinaison très concrète pour permettre aux gens de comprendre ces grands principes, l'implication que ça peut avoir, et je dirais tout simplement et modestement, l'économie quotidienne et l'économie de tous les jours, c'est assez peu traité, voire pas du tout traité en France. Et c'est vraiment, moi, ça qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe, de se saisir à nouveau des enjeux économiques, de ne pas avoir peur des grands mots économiques et des grands concepts, parce qu'en réalité, tout ça n'est pas simpliste, mais extrêmement simple à comprendre quand on veut que son interlocuteur comprenne. Donc c'est vraiment une rupture par rapport au, je dirais, par rapport au côté un petit peu guindé, et un petit peu confidentiel de l'économie, dont on ne veut surtout pas que les citoyens s'emparent. Eh bien, moi, c'est le contraire. Je veux que les citoyens s'emparent de l'économie parce que un citoyen éclairé est un citoyen qui doit pouvoir comprendre les grands enjeux économiques et donc se positionner dans un sens, dans un autre. Enfin bon, bref, se forger son intime conviction sur ce qui est important en tant que citoyen vis-à-vis de l'économie.
Un mot sur encore votre démarche, puisque dans Insolencia, il y a l'origine latine d'insolence, donc cet esprit aussi de ne pas forcément suivre le discours officiel, ni économique, ni dans d'autres domaines qui ont été, par exemple, pendant les 2 années de Covid, vous avez pris vos distances avec un discours officiel pour faire vos propres analyses, sortant un petit peu du domaine purement et simplement économique. Vous aviez d'ailleurs alerté dès le tout début du Covid, avant que ce soit une problématique européenne, en vous basant sur les chiffres, sur la situation en Chine, d'un taux assez faible de morts et aussi de la chute prévisible des valeurs liées au voyage. Donc les personnes qui, à ce moment-là, avaient suivi vos conseils ont pu éviter des problèmes. Ces 2 années de Covid, elles vous ont amené quoi en analyse économique et en prise de distance avec les thèses officielles en général ?
Je crois qu'il faut, si vous voulez, bien souvent, les gens pensent que on les informe et qu'on veut leur bien. Et en fait, ce postulat de départ est totalement erroné. Alors, non pas qu'on souhaite forcément leur mal et les désinformer, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe. En réalité, le rôle des autorités, quelles qu'elles soient, que ce soit des autorités politiques, sanitaires, médicales, économiques évidemment, le rôle de ces autorités, et si j'étais à la place de ces autorités, j'aurais très certainement la même vision et je ferais globalement peut-être des choses pas très différentes, c'est pas d'informer, et de dire la vérité, c'est d'assurer la stabilité de la société. Et ça, il faut bien comprendre ça. Leur objectif n'est pas de vous dire la vérité ou de vous informer, leur objectif est d'assurer la stabilité. Alors nous avons tous à gagner à ce que la stabilité soit assurée. Donc l'objectif poursuivi n'est pas forcément un mauvais objectif. Lorsque vous avez le professeur Didier Raoult qui au début de... la pandémie, dit que le plus grand danger, c'est la peur elle-même. Il est pleinement conscient, avec son rôle de professeur, à la fois première ligne et dernière ligne de défense, face à des pandémies avec l'IHU qu'il a créé, porté, etc. Il sait très bien, il connaît très bien le risque de la panique et donc ce que ça peut entraîner en instabilité et en drame. Humains, politiques, sociaux, etc. Donc, il faut être conscient que les autorités cherchent toujours à assurer la stabilité. C'est exactement la même chose en économie, hein, si on sort de l'analogie de la pandémie. En économie, quand vous avez Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne qui vous dit que l'inflation va être transitoire, que c'est pas grave, vous inquiétez pas, elle est là pour assurer la stabilité. Quand vous avez Bruno Le Maire qui tous les trois mois, vous dites que ça y est, on voit la fin du tunnel, que c'est la fin de l'inflation, que bon, Bruno Le Maire sait très bien que c'est l'inverse. À chaque fois que Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui est notre ministre de l'économie, nous dit que tout va bien se passer, en général, ça se passe mal. Bon, c'est pas parce que Bruno Le Maire est un imbécile, c'est tout sauf un imbécile, c'est un homme très cultivé, très intelligent, donc il n'a pas du tout de problème de capacité intellectuelle. Il préfère, il accepte de passer pour un imbécile, c'est la dure conséquence d'être ministre, mais il veut à tout prix assurer la stabilité. Et donc Bruno Le Maire vous dit, quand on est en février 2020, que l'impact du Covid, enfin de l'épidémie de coronavirus, on ne l'appelle pas encore Covid, hein, mais l'impact de l'épidémie de coronavirus à Wuhan en Chine sera au maximum de 0,1% sur le PIB français. Bon, et puis on a terminé à moins 9%. Et pas moins 0,9. Donc vous voyez, c'est une marge d'erreur qui est absolument considérable.
On peut citer aussi le ministre de notre ministre Le Maire qui s'est félicité de l'efficacité des sanctions contre la Russie, et puis des chiffres officiels des instances financières internationales ont montré que l'impact était beaucoup moins fort sur la Russie des sanctions et que prévu initialement, et beaucoup plus pénalisant pour l'Europe et la France donc également que prévu au départ. Merci pour cette analyse, Chalsana. On peut peut-être rentrer dans le cœur du sujet qu'on avait choisi aujourd'hui, ce qui est la compréhension de la situation tout autour du Proche-Orient et liée évidemment au conflit israélo-palestinien et à Gaza. Vous révélez sur votre site une info qui n'a pas été trop traitée par les médias, qui est que les États-Unis qui ont levé 6 mois de sanctions contre le Venezuela pour favoriser justement l'achat de pétrole. Bien sûr, l'inconnu, c'est toujours le prix. Je voulais vous interroger sur d'autres signes pour avoir votre analyse là-dessus, sur la compréhension et sur le fait de voir... Effectivement, s'il y a un péril sur l'énergie, en tout cas sur le pétrole, trois éléments peut-être, le prix de l'or qui monte ces temps-ci, les marchés boursiers qui ont perdu pas mal, et puis le baril du pétrole qui a pris 10%. Quelle est votre analyse là-dessus? Je voulais aussi vous interroger sur l'Arabie Saoudite qui baisse sa production pour faire monter le prix, le Qatar qui a pris position contre Israël, et enfin l'Iran qui a également du pétrole, qui appelle de son côté à prendre des sanctions contre l'Occident. Est-ce qu'il peut se faire un bloc, une sorte de revanche à travers la livraison de pétrole et le prix du baril?
Alors là, la réponse est bien sûr oui. Alors une fois qu'on a dit oui, on va évidemment, affirmation ne valant pas argumentation, on va raisonner. Et je vous propose de réfléchir ensemble. Encore une fois, là, l'idée... Ce n'est pas d'asséner des vérités, de dire voilà ce qui va se passer, c'est une certitude. C'est en revanche toujours, et c'est ce que je fais moi avec mes lecteurs et avec mes abonnés, c'est que je partage des réflexions, je partage des analyses, je partage des raisonnements. Et en général, quand on commence à raisonner, eh ben, on se rend compte qu'on arrive rapidement à cerner quand même l'essentiel de ce qui va se passer. Alors raisonnons un peu. Vous avez aujourd'hui, et raisonnons en dehors de toute notion d'émotion, de bien, de mal, de sortons de l'émotionnel pur. Vous avez une situation absolument terrible. Vous avez eu des attentats et des attaques absolument effroyables en Israël. Vous avez un sujet israélo-palestinien qui date depuis 1948 et la création de l'État d'Israël et le déplacement des populations palestiniennes qui étaient là. Donc vous avez au Proche-Orient de toute façon une poudrière depuis quasiment 70 ans. Qui est là, qui est réel, et puis avec des souffrances qui sont absolument terribles de part et d'autre, et tout ça est absolument indéniable. Une fois qu'on a dit ça, on doit bien se rendre compte que ce sujet peut parfois dépasser évidemment les intérêts économiques purs ou la rationalité. Donc on va aller et on se retrouve régulièrement avec des excès paroxystiques, de violence, de tension, etc. Encore une fois, on ne juge pas, on constate ce qui se passe. Nous vivons aujourd'hui un de ces moments paroxystiques, et donc, par rapport à ce qu'il s'est passé, 1500 Israéliens tués sur la propre terre d'Israël, sanctuaire censé devenir le sanctuaire pour les Juifs du monde entier, vous avez un traumatisme qui pour les Israéliens est absolument effroyable. Et donc de ce traumatisme effroyable risque évidemment d'arriver des rétorsions absolument effroyables, et on voit déjà des bombardements qui sont extrêmement importants sur la bande de Gaza. Face à ça, vous avez donc deux risques d'un point de vue analytique qui se profilent. Et donc vous avez le scénario, vous avez deux risques, on va dire trois scénarios. Le scénario le plus favorable serait des mesures et des rétorsions finalement relativement limitées de la part de l'armée israélienne, avec le Hamas qui se rendrait ou le Hamas qui serait mis en dehors de Gaza, avec un certain nombre de responsables du Hamas qui ont déjà été liquidés, puis d'autres qui le seraient, arrêtés, etc. Bon. Et puis le Fatah, l'autorité palestinienne, qui viendrait prendre la direction de Gaza. Bon. Alors là, on pourrait être dans vraiment le scénario le plus favorable, et donc on passerait de l'escalade que nous vivons actuellement à la désescalade. C'est une solution diplomatique, ça demanderait une infinie sagesse et un immense sens politique de la part du peuple israélien. En seront-ils capables? Leurs dirigeants seront-ils capables? Je ne sais pas. Et je n'ai pas à juger, je vous dis ça simplement, c'est le premier scénario d'un point de vue analytique, ça serait le scénario de la désescalade, alors avec toutes les nuances que vous pouvez y mettre, mais on va appeler ça le scénario de la désescalade. Le deuxième scénario, c'est le scénario de l'invasion terrestre de Gaza ou de la poursuite des bombardements de manière intensive sur les populations civiles, évidemment palestiniennes de Gaza. Et donc là, vous avez un risque d'embrasement régional et d'embrasement des populations du monde arabo-musulman autour. Et donc là, politiquement, les pays arabes seront obligés de réagir. Et donc là, vous avez deux scénarios, le scénario médian et le scénario du pire. Le scénario du pire, vous l'imaginez bien, c'est l'embrasement généralisé, d'autres pays rentrent dans le conflit directement, et puis c'est la guerre régionale ouverte qui peut, dans son acceptation la pire ou dans son évolution la pire, se transformer en guerre mondiale généralisée. Avant d'arriver là, vous avez un scénario intermédiaire, et qui est le plus probable, en tout cas, avant d'arriver à la Troisième Guerre mondiale, on passera forcément par celui-là, qui est un scénario de sanctions économiques prises par les pays arabes contre le monde occidental, contre Israël et contre le monde occidental, en signe évidemment de protestations fortes, mais que ces protestations fortes restent au niveau économique et n'entraînent pas de guerre physique. C'est d'ailleurs exactement ce que nous avons fait à l'égard de la Russie. Nous ne sommes pas, nous, le camp occidental, rentrés en guerre frontalement avec la Russie lors de l'invasion en Ukraine. Alors nous avons armé les Ukrainiens, nous soutenons les Ukrainiens, nous, massivement, etc. Mais nous avons pris des sanctions économiques à l'égard de la Russie. on peut tout à fait imaginer l'équivalent de la part des pays arabes producteurs de pétrole et de gaz, prenant des sanctions économiques à notre égard, puisque nous soutenons Israël, et donc ça passe évidemment par un embargo sur l'énergie, et c'est dans ce cadre-là, vous avez évoqué la levée des sanctions contre le Venezuela, c'est dans ce cadre-là qu'évidemment les États-Unis, qui savent très bien ce qui va se passer, sont en train de préparer des sources alternatives d'approvisionnement en pétrole, et donc c'est notamment le cas avec les ressources pétrolières vénézuéliennes, puisque le Venezuela est assis sur d'immenses réserves d'hydrocarbures. Bon, alors aujourd'hui, on parle de 200, la production du Venezuela, elle a été très abîmée par des décennies de sanctions. Donc on parle de 200 000 barils de pétrole jour, c'est-à-dire rien du tout par rapport à la consommation mondiale, mais enfin, suffisant pour assurer la continuité, on va dire, des services publics, donc l'approvisionnement de base, le déplacement des forces de secours, des armées, etc. Donc c'est ça, on en est réduit à ça aujourd'hui. Donc ça, le scénario le plus probable, si le conflit s'envenimait, c'est évidemment avant d'arriver à un embrasement total du monde, on passera évidemment par l'étape sanction et donc par par un choc pétrolier et gazier absolument majeur qui aura...
Ce scénario que vous décrivez, ce passage en tout cas quasi obligé par ces formes de sanctions telles que nous l'avions mis l'Europe contre la Russie, peuvent être prises contre le monde occidental. Vous les décrivez dans votre ouvrage disponible sur votre site insolentia.com. Vous l'aviez donc rédigé très récemment. Il s'appelle « La guerre, conflit au Proche-Orient et risques systémiques ». Il y a une partie d'analyse que vous nous donnez là maintenant. Évidemment aussi, il faut rappeler que l'abonnement, c'est un peu moins de 100 euros par année. Donc on reçoit une lettre mensuelle plus des dossiers ponctuels comme celui-là sur des gros sujets pour bien les cerner. Ce sujet-là qui est évidemment urgent et lié à cette tension régionale, voire ce risque de guerre. On peut donc le retrouver en s'abonnant avec des conseils précis sur comment investir, donc quelles sont ces valeurs qui vont, à votre avis, bien tenir. Donc vous donnez tout simplement 8 actions qu'on peut consulter en s'abonnant, certaines dans l'énergie, d'autres dans la tech, d'autres un peu plus surprises pour la huitième, je ne vais pas dévoiler. Donc ces conseils basés sur votre analyse, cette analyse que vous nous donniez géostratégique, et sur ce passage probable à un passage à la sanction, donc à la montée des tarifs de l'énergie, du pétrole en tout cas. Est-ce qu'on peut résumer comme ça ? Et je voulais vous interroger aussi sur cette phase que vous décrivez dans votre ouvrage PDF qui est disponible sur votre site. C'est une phase dite d'insolvabilité, de faillite du système bancaire ou financier. Est-ce que là-dessus, on peut aussi donner quelques conseils, par exemple, sur les prélèvements possibles par l'État sur les comptes bancaires, hein, comme ça a été le cas à Chypre, notamment, et dans d'autres cas de crise ?
Oui, alors, bon, plusieurs sujets dans vos questions. Alors, si vous voulez... L'idée, c'est toujours quand on raisonne, c'est de pousser les raisonnements jusqu'au bout. Hein. Donc bien souvent, l'erreur analytique consiste à s'arrêter au milieu du gué, parce que si on traverse complètement et qu'on va de l'autre côté de la rive, eh bien, effectivement, on arrive à devoir évoquer ou aborder des sujets qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie de traiter, parce qu'ils font peur, parce qu'ils sont effrayants, parce que parfois ça peut sembler même anxiogène, enfin bon voilà. Or en réalité, il faut absolument, d'un point de vue analytique, toujours aller jusqu'au bout des choses, et c'est en allant jusqu'au bout des choses qu'on est capable de cerner dans leur complexité et dans leur finesse l'ensemble des risques, et donc de concevoir des stratégies pertinentes pour pouvoir s'en protéger, voire même parfois transformer des problèmes et des échecs en opportunités. Donc c'est important d'avoir cette vision-là. sur le risque d'insolvabilité, ce sont des questions qui vont se poser, bien évidemment. Et tout va dépendre là de l'action des banques centrales. C'est elles qui, finalement, au bout du compte, seront le juge de paix de la nature de l'insolvabilité ou de la manière dont l'insolvabilité va être gérée. Basiquement, vous gérez l'insolvabilité, c'est-à-dire le manque d'argent, soit par une augmentation des rentrées fiscales, peu importe comment vous appelez ça, ça peut être une ponction sur les comptes, une taxe exceptionnelle, un impôt sur la guerre, peu importe. Mais soit vous allez chercher l'argent là où il est et vous assurez vos fins de mois, soit vous n'assurez pas vos fins de mois et vous coupez tout simplement dans les dépenses, c'est-à-dire que vous ne payez pas ce que vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas d'argent. Et donc là, ça c'est l'insolvabilité. Alors, vous pouvez faire le choix de payer par exemple vos créanciers, mais de ne pas payer vos fonctionnaires. Hein, voilà. On dit, voilà, bah, ce mois-ci, c'est demi-paye pour tous les profs. Je vous rassure, si vous êtes CRS, vous devriez toucher votre paye, mais pour les fonctionnaires non teneurs de matraque, ça risque d'être plus compliqué. Ou par exemple, on dit, bah, pour le moment, ce sera demi-paye pour les retraités qui gagnent plus de 1000 euros par mois. Bon. Donc là, vous avez une forme d'insolvabilité, et vous voyez que là aussi, en vous prenant ces exemples outranciers et un peu provocateurs, c'est pour vous montrer que quand on parle d'insolvabilité, là aussi, il y a plein de nuances possibles entre parler de l'insolvabilité vis-à-vis du service de la dette ou vis-à-vis des dépenses quotidiennes que peut avoir un État, etc., etc. Donc là aussi, vous avez plein de formes possibles que peut prendre l'insolvabilité. Ou alors, vous faites de la création monétaire et donc c'est la banque centrale qui vient et qui évite votre insolvabilité. Et à ce moment-là, pour éviter l'insolvabilité, eh bien, elle imprime des billets, elle imprime de la monnaie. Et donc, elle vous finance le budget de l'État et ce qui manque et les fins de mois très difficiles. Alors ça, vous allez le payer sous la forme d'une inflation, de l'érosion de votre pouvoir d'achat monétaire et de votre inflation. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui va. D'abord, comment va se poser la situation, comment elle va évoluer. Mais c'est une phase qui peut arriver dans cette cinétique et dans cette dynamique de crise. Si la crise se poursuit telle qu'elle est engagée aujourd'hui et si la guerre s'aggrave, alors effectivement, nous aborderons dans l'une de ces étapes le sujet forcément de la solvabilité des États.
Merci Charles Sanin pour ce bon sens économique qui fait du bien, définit des raisonnements poussés jusqu'au bout et clairs, proches du réel. On vous retrouve aussi sur YouTube, les greniers de l'écho, Insolentia, TIAE à la fin.com, aussi donc pour s'abonner à l'entièreté de vos analyses et profiter aussi des paris que vous faites, des investissements que vous faites. On peut citer aussi des dossiers disponibles, j'en avais cité quelques-uns, mais il y a également celui que vous avez fait en septembre 2023 sur les BRICS, ce sujet très important, la fin du dollar, point d'interrogation, et puis aussi cette inquiétude sur les assurances-vie que vous avez traité aussi en juin 2023. Quelle stratégie? On verra que certainement l'assurance-vie n'est plus un si bon plan que ça. En tout cas, pour avoir les infos, rendez-vous sur votre site. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour continuer cette analyse liée aussi, évidemment, à l'actualité géostratégique. À très bientôt, Charles Sanin.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
De Metz à Thionville, avec RPL 89.2. 89.2.